Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Là, de le mettre. Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions?
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutues de parole,
hein? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je ne connais pas. C'est quand même curieux. 100 fois, tu dis. Jamais, je tombe en panne.
Merde, on a honte. Merde.
Avec un rêve du poil. Avec un rêve du poil.
Aujourd'hui, mercredi 19 août 2020, c'est la Sainte Bienveillance. Sainte Bienveillance est la sainte patronne des attitudes qui visent à faire le bien d'autrui, qu'on le connaisse personnellement ou non, qu'il l'ait demandé ou non. Et il n'a plus qu'à fermer sa gueule, ce con, puisque c'est pour son bien. À part les chômeurs, les retraités et les élus, c'est au travail que les Français passent l'essentiel de leur vie. Les cons. Et c'est bien à cause de ça que Sainte Bienveillance a été canonisée. Parce qu'un salarié épanoui, c'est un patron heureux. Un salarié qui passe sa journée dans une atmosphère invivable et de merde est peu disposé à faire son maximum. Et c'est du chiffre d'affaires en moins. Alors qu'un travailleur content d'aller au taf est plus productif. Et là-dessus, tous les experts sont formels. Les experts du patronat en tout cas. Sainte Bienveillance a été canonisée en 4 étapes essentielles, toujours les mêmes, quelles que soient les situations. 1. Se soucier du bien-être des autres. 2. Être poli en toutes circonstances. 3. Opter pour la gentillesse. Et 4. Cultiver le respect. Ainsi, les patrons, soucieux du bien-être des travailleurs, ont-ils soin de 1. Toujours prendre des nouvelles du petit dernier. 2. De dire aux travailleurs « t'es viré, mais avec courtoisie ». 3. Accompagner le plan de licenciement avec un bouquet de fleurs. Et 4. Ne pas oublier le beurre, ou la vaseline, ou tout oléagineux en vente libre. Il en va de même depuis la modification de la charte d'accueil dans les services publics. Dans toutes les circonstances, la police devra 1. Demander au suspect si la matraque en français ne lui fait pas trop mal. 2. Surveiller le volume d'air non inspiré lors d'une clé d'étranglement. 3. Savoir chaleureusement serrer la main d'un syndicaliste, même si le gardien de la paix la lui a arrachée, la main sans rancune. Et 4. Veiller à rester dans l'angle de vision du gilet jaune éborgné pour que ce dernier puisse continuer à admirer son bel uniforme. Il va sans dire que cette charte d'accueil, dite charte Marianne, est particulièrement prisée par les forces de l'ordre, surtout depuis que Darmanin est à l'intérieur. Mais attention, Darmanin, il est à l'intérieur, mais avec son consentement et avec bienveillance. Aujourd'hui, mercredi 19 août, le soleil s'est levé. Même si tu ne poses pas à l'usine, tu seras esclave, salarié, tu verras, c'est un beau métier. Il va se coucher, tu l'apprendras à courber les chines, c'est pour ton bien, puisqu'on te le dit, c'est pour ton bien. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, sur campusil.com et le DAB+. Marx et le colonialisme, c'est la conférence de Rémi Herrera que vous pourrez écouter ce soir. Rémi Herrera, économiste, et c'est l'heure de le mettre sur Radio Campus.
Ok. Ok. Ok, ok. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance part en couille, sauvez nos entreprises. Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux. Allons, vos emplois sont en jeu, allez. Achetez, 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 achetez. Achetez. Ils le font. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous. Un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards. Qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous couvre dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles. Dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit état policier, allez. Paniquez, 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 paniquez. Paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards. Depuis qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous couvre dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous, on a le monde à notre. être potes, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraigne, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres. Ok, ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de consacrer cette séance d'ouverture à Marx, et plus précisément à sa position ou ses positions face au colonialisme, ou plutôt à l'évolution de ses positions sur le colonialisme, parce qu'il y a eu évolution. Alors, c'est les écrits de Marx, où il est question de la colonisation, sont assez peu nombreux. Mais quand on parle de Marx, assez peu nombreux, ça veut dire quand même plusieurs centaines de pages. Donc, il faut aller chercher ces textes là où ils sont. Et leur caractéristique est d'être extraordinairement éparpillés. Ils ont des statuts très différents. Tantôt des notes de lecture, des articles de presse, des correspondances échangées, pas seulement entre eux, mais aussi avec d'autres camarades, d'autres révolutionnaires, d'autres marxistes, entre guillemets, de l'époque, y compris après la mort de Marx. Engels est une source très importante aussi par sa correspondance avec Kautsky, avec d'autres, bon, après 1883. Tantôt, des passages, des grands classiques, si je puis dire, des grands textes de Marx et ou d'Engels, ou des deux, à commencer par le chef-d'œuvre de Marx, le Capital. Donc, ces textes sur la colonisation s'intéressent aux périphéries, c'est-à-dire, en apparence, aux marges du capitalisme, ou de l'histoire du capitalisme. Mais, de mon point de vue, ce sont des textes qui sont très loin d'être anecdotiques. Ils ont été extrêmement fréquemment relégués au rang de documentation complémentaire. Ils sont, de mon point de vue, je ne vous l'imposerai pas, mais je vous l'expose, ils sont centraux, capitaux, si je puis dire, indispensables dans une lecture parallèle avec le cœur des ouvrages fondamentaux, Le Capital et les autres. Leur lecture, de mon point de vue, est même indispensable pour saisir le parcours de la pensée théorique et de l'action politique de Marx dans toute sa complexité. Dans toute sa complexité. Et il faut savoir les replacer dans une réflexion globale sur la transformation du monde, sur la transformation du monde par la révolution. Je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête tout le temps, du début à la fin. Marx n'a rien d'autre en tête quand il écrit sur l'Inde, sur l'Algérie, que la transformation du monde par la révolution. Alors, il utilise, et Engels avec lui, Engels un peu différemment, parce que, bon, je ne parle pas d'Engels, j'ai dit que je parlais de Marx. Donc, disons, Marx utilise très généralement le terme de colonisation sous son sens moderne, son sens, on va dire, traditionnel, okay, comme conquête militaire et occupation par une puissance métropolitaine de territoires étrangers pour dominer des peuples et pour les exploiter économiquement. Donc, il parle en fait de l'expansion mondiale de l'Europe qui débute, grosso modo, au XVe siècle et qui va conduire, jusque un peu après la mort de Marx d'ailleurs, à ce qu'on a appelé le partage, pas seulement de l'Afrique, mais le partage du monde au profit de l'Europe. C'est de ça dont il parle. Donc, cette colonisation, parfois il parle de colonisation au sens de colonisation de peuplement, disons, d'implantation de noyaux de population, en particulier germanique. Plusieurs fois, ça revient en Europe centrale et orientale ou en Russie, mais c'est quand même très majoritairement de la colonisation dont on parle habituellement, dont il est question. D'accord ? Donc c'est une colonisation inséparable de la singularité du mode de production capitaliste. Alors, l'époque compte énormément. En réalité, Marx écrit entre les années 1840 et 1880, c'est-à-dire entre le temps d'un capitalisme du libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme de la libre concurrence, le capitalisme de la prise de commande par l'industrie, le capitalisme de l'hégémonie anglaise. C'est vraiment cette époque-là, l'époque de Marx. Mais déjà, il voit ce temps finir, s'en aller. Et un autre temps qui n'est pas encore tout à fait arrivé, qui est le temps que l'on appellera, disons, de l'impérialisme, c'est-à-dire le temps de la reconquête du monde, qui était déjà colonisé dans son immense majorité, mais la reconquête du monde par les monopoles, et qui va, disons, un temps qui va annoncer la montée en puissance de la finance, et essentiellement de la finance états-unienne. Marx n'est pas contemporain de ce temps-là. Évidemment qu'il sent que ça monte jusqu'au cœur du Capital, il en parle, et dans une infinité d'articles. Mais disons que ce temps-là n'est pas encore venu. Okay ? C'est de cette période charnière, on peut dire, intermédiaire. Ce n'est pas une période creuse, mais c'est dans ce temps-là, disons, qu'il vit, et c'est de ce temps-là qu'il nous parle. C'est très important, très très important de resituer le curseur là où il doit être historiquement. C'est un temps de remontée, de montée, tout court, des idéologies racistes, des haines réactionnaires en Europe. C'est le temps du racisme anti-noir, du racisme anti-arabe, du racisme anti-juif, du racisme. C'est le temps de la reconstruction des nations européennes, parfois sur des passés totalement fictifs, totalement inventés, sur la haine raciale. C'est extrêmement important. Le temps de parole, si je puis dire. Alors, c'est cette trajectoire des réflexions théorico-politiques de Marx sur la colonisation que je vous propose d'examiner avec ses tournants, avec ses complexifications, avec parfois même ses indéterminations qu'il faudra laisser, que moi, en tout cas, je laisserai ouvertes pour le débat, mais aussi, je crois, pour notre pensée actuelle sur le thème. Alors, je veux insister d'abord, dès le début, sur l'invariant des réflexions de Marx, le point fixe de ses discours, qui est la dénonciation de la violence coloniale. Pour lui, coloniser, c'est d'abord employer la force armée, la violence de la conquête militaire, la violence de la soumission de peuples étrangers. Les exemples sont extrêmement nombreux dans ces œuvres qui disent les crimes, qui disent les souffrances subies, qui disent les vies humaines écrasées par millions. Le paroxysme serait atteint, d'après lui, dans les colonies anglaises, qu'il cite en modèle. Bon, ce que je dis, en fait, est un peu faux. Il dit dans Le Capital, à un moment, le pire de tous les colonialismes, ça a été le colonialisme hollandais. Les pires atrocités ont été notées en Indonésie. Enfin, il ne dit pas Indonésie, mais bon, les Indes néerlandaises. Mais il le dit qu'une fois. Par contre, il dit mille fois que les atrocités des colonies anglaises. Pas britanniques, anglaises. C'est le summum, disons, dans les hécatombes, le pillage, l'esclavage, le travail forcé, les répressions, la ségrégation raciale, les haines coloniales. C'est normal, l'Angleterre était l'hégémonie dominante de l'époque. Alors, il force le trait. Bon, je vous rappelle juste qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie à Londres. Et il se payait le luxe. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'égratigne pas les Français. Hein. Ce qu'il dit des Français, en particulier pendant la conquête de l'Algérie, est terrible aussi. Hein. Et chacun a droit à son chapitre. Mais disons que, de manière absolument récurrente, il revient sur l'ennemi numéro un, évidemment, c'est-à-dire l'hégémonie mondiale. C'est faire preuve d'une extraordinaire intelligence entre nous soit dit, hein, même si évidemment après on entre dans le débat de la graduation des atrocités. Bon, est-ce qu'il existait des colonialismes ou des esclavages doux? C'est un thème très très discuté, hein, à l'université. Bon, vous me trouverez pas dans ce débat-là. Je vous répète simplement ce que dit Marx. Il parle, je le cite, de ces chiens d'anglais aux nerfs délicats, un peu plus loin, de leur cruauté, un peu plus loin, de leur hypocrisie, de leur colonie pénitentiaire en Inde, d'atrocités commises rien que pour le plaisir, à propos de l'Inde. Pour dire cela, Marx se fonde sur des rapports officiels, mais la plupart du temps, il doit percer le blindage de la propagande de la presse, britannique essentiellement, la presse de l'hégémonie mondiale, celle qu'il lisait en premier. Bon, il se gêne pas pour parler de ces ânes d'anglais et tout ça, mais peu importe. Derrière tout ça, la référence principale, tant officielle par les rapports ou médiatiques, je dirais, de Marx, pour ses lectures, c'est évidemment l'Angleterre. Alors, bon, cette violence qui adhère aux structures de l'administration coloniale, qui est institutionnalisée, qui est extrême, Marx n'a fait que la montrer crûment. Donc, à aucun moment, Marx n'a omis les supplices des peuples colonisés. Et il le dit extrêmement tôt dans l'idéologie allemande, avec Engels, 1845, et il parle des supplices du Suriname, des choses comme ça, bon, mais même bien avant, en fait, dès les articles de la Rheinische Zeitung, 1842, le texte sur les lois sur les vols des bois, il y a référence à... Il parle, par exemple... Enfin, il faut savoir le lire aussi. Quand il décrit, par exemple, les réactions des indigènes de Cuba qui venaient, en fait, qui s'était replié de Santo Domingo à Cuba, a tué, qui était né à Santo Domingo, un chef taïno qui est venu à Cuba et qui donnait l'ordre à ses hommes de jeter... C'est la naissance, l'esquisse du concept de fétichisme de la marchandise, quand il dit que Atué donnait l'ordre à ses hommes de jeter l'or que venaient chercher les Espagnols à la mer, parce que les Espagnols allaient repartir à la mer pour aller chercher l'or. C'est évidemment qu'il parle déjà de cette scène, de cet événement, pour sauver les hommes, il dit. Il fallait jeter l'or à la mer pour sauver les hommes. Mais en creux, il parle de l'hécatombe des Indiens caraïbes de l'époque. Donc, il ne faut pas rater ces choses aussi importantes qui paraissent un peu folkloriques ou un peu exotiques. En réalité, je le redis, elles sont absolument centrales et fondamentales. Ou alors, l'eurocentrisme, c'est nous, c'est pas lui. C'est le lecteur plutôt que lui. Parce que lui, il a ça dans la tête. Il dénonce la violence coloniale, mais différemment des bonnes âmes de son époque, des discours anticolonialistes libéraux de l'époque, faussement philanthropiques, ou même des discours des socialistes, pas seulement des socialistes utopiques, mais disons des socialistes, des courants socialistes en général, très sentimentalistes, mais pour Marx, dangereux au sens où il risque de faire échouer la révolution. Donc la position de Marx sur le colonialisme est tout à fait différente et des courants libéraux et des courants socialistes de l'époque.
Mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Malélé. je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester pour me marrer.
L'accusation de Marx se fonde sur un constat, se fonde sur un fait historique. Et ce fait historique, c'est que la violence coloniale est intrinsèque à la genèse du capitalisme industriel. Elle est incontournable. C'est ça qu'il nous dit. La colonisation est un moyen utilisé par le capital pour surgir, mais c'est un moyen parmi d'autres. C'est le plus brutal, mais l'un des moyens du capital dans la phase de ce que l'on appelle en français, assez horriblement d'ailleurs, l'accumulation primitive. Et disons, on pourrait appeler plus proprement l'accumulation originelle du capital. Donc Marx a autant de complaisance ou de considération pour le capitalisme colonial outre-mer que pour le capitalisme bourgeois de l'Europe. Ce sont les deux faces du même mouvement, du même processus. Ok ? Les deux faces de la même réalité. Et cette réalité, c'est l'expansion du capital. Donc on ne peut pas dire l'une et oublier l'autre. Ce que la grande majorité des auteurs du Nord, des auteurs occidentaux, marxistes, je veux dire, ont fait, en général. Okay ? Ils n'ont parlé finalement que de l'Europe. Mais Marx est très clair, et en permanence, enfin ce sont des centaines de pages, pas seulement des centaines de pages sur la colonisation, mais des centaines de pages en plus, où les deux mouvements de genèse du capital industriel en Europe, mais dans un mouvement d'une Europe ouverte, comme on apprend maintenant aux gosses, d'une Europe exploitant, disons, le Sud, qu'il souligne. Ok ? Donc l'invariant de la réflexion, c'est ça, pour lui. Du début à la fin, il y a ça. Il y a la dénonciation de la violence coloniale. C'est la constante. Mais sur cette trame critique, des évolutions importantes dans leurs implications, disons, théoriques et politiques aussi, jusqu'à nous, aujourd'hui, disons, des évolutions sont perceptibles. On va les voir maintenant. Quel est le point de départ de l'analyse ? Les tout premiers textes de Marx et d'Engels promettent la modernisation, la civilisation par la colonisation. Il faut le voir, il faut le dire. Mais on ne peut pas voir que ça. Marx, ce n'est pas que ça. Mais il commence comme ça. 1842, 1845, 1847, 1848, le pompon, le manifeste. La colonisation, c'est la modernisation, c'est la civilisation. Dans la décennie 1840, Marx est absolument convaincu de la victoire du prolétariat anglais qui doit venir. Et il pense que cette victoire va sonner le signal de la libération des peuples opprimés, y compris en Europe, l'Irlande, la Pologne et les autres. Donc c'est un temps, sans vexer certains, je dirais, d'optimisme. C'est un temps, disons, d'une vision de l'histoire impulsée par la lutte des classes, mais surtout portée par son temps, portée par les mouvements révolutionnaires européens de 1848 qui montent partout, jusqu'en Europe centrale et orientale. Okay ? Donc, la colonisation, pour lui, au départ, est conçue comme une chance pour le pays conquis. C'est une agression absolument insoutenable, mais c'est un progrès. Un progrès qu'il qualifie même, dans un texte de 1853, dans la New York Daily Tribune, de révolutionnaire. Il dit, même, à propos de l'Inde, il dit « c'est la seule révolution qu'ait connue l'Asie ». La colonisation est la seule révolution qu'ait connue l'Asie. Je vous épargne les... Non, je ne le développe pas trop dans la préface. Un peu, pas beaucoup. Mais je pense qu'il force le trait volontairement. Évidemment qu'il a plus ou moins ça dans la tête. Mais il est aussi aux prises dans cette revue, qui est pas ce journal, qui n'est pas n'importe quel journal. C'est peut-être le journal à l'époque le plus influent dans les milieux de gauche aux États-Unis, mais ce n'est pas un journal marxiste. Donc il est aussi, il le dit à Engels très clairement, j'ai forcé le trait, enfin, je ne sais plus exactement comment il dit ça, mais il dit j'ai exagéré, pardonnez-moi. Rien que pour les faire chier, quoi. Parce que on doit mener cette guerre contre les courants non socialistes dans la revue. OK ? Bon, alors après, discutons de savoir pourquoi il a parlé de colonisation révolutionnaire pour lutter contre les courants non socialistes dans la New York Daily Tribune. Ça, c'est autre chose. Mais disons, il est évident qu'il écrit de manière exagérée, volontairement exagérée. Ça n'enlève rien au fait qu'il écrit ça et qu'il le réécrira 100 fois. Hein. Bon. C'est une digression qui a probablement introduit pas mal de confusion dans les têtes, je dirais presque volontairement, presque. Vous voyez, je ne dis pas qu'il écrit en s'auto-censurant. S'il y a bien un auteur qui n'a pas écrit en s'auto-censurant, c'est bien Marx. Mais parfois, il écrit aussi pour faire avancer des positions dans des luttes politiques internes à des groupes ou à des revues ou à des journaux. C'est un fait. Et c'est particulièrement le cas sur le thème du colonialisme. Bon, passons sur la digression. Bon, on a donc une évaluation très positive de la colonisation à cette époque par Marx. Et ça, ça renvoie évidemment au manifeste, où, dans lequel civilisation et bourgeoisie coïncidaient, ou en tout cas s'entendaient ou s'accordaient assez bien. Okay ? On a tout un tas de pages vantant les mérites de la bourgeoisie, à juste titre. La bourgeoisie est révolutionnaire, comme il dit. La Révolution française est un exemple parmi beaucoup d'autres, Mais la civilisation personnifie l'industrie et surtout l'industrie anglaise, la supériorité de la bourgeoisie anglaise qui, malgré tout, dissout le féodalisme, malgré tout, met en action les forces productives qui vont rendre nécessaire et même possible le passage à la société communiste. C'est ça le plus important pour lui à l'époque. Donc, au-delà de l'Europe, cette bourgeoisie, ou la, disons, la colonisation en tant qu'elle personnifie aussi la bourgeoisie anglaise d'abord, au-delà de l'Europe, cette même bourgeoisie va libérer les peuples non européens des chaînes, disons, des communautés qui les ont asservis depuis des siècles ou des millénaires, et en bout de course, la bourgeoisie joue un rôle progressiste pour lui, en élargissant l'emprise du capital au-delà des frontières de l'Europe. Engels est parfaitement sur la même ligne. Et lors de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, Marx et Engels vont co-signer, c'est rare pour les articles, un certain nombre d'articles en allemand, dans lesquels ils se rangent clairement du côté des États-Unis. On va dire sans surprise. Sans surprise. Ils critiquent, mais de manière... vous connaissez les critiques de Marx. Quand il se lâche, c'est terrible. Il accable le gouvernement états-unien qui sert les intérêts des esclavagistes, des propriétaires fonciers, des grands propriétaires fonciers dans... au-delà du Texas, quoi, donc dans le nord du Mexique. Les États-Unis ont arraché la moitié du Mexique, hein, tranquillement, hein, à l'époque. Donc, à peu près, la moitié de la superficie du Mexique est passée en territoire d'abord texan, puis États-Unis en tout court. Donc, ils sont impitoyables à l'égard de, je crois que c'est Buchanan, à l'époque. Et d'ailleurs, ils reconnaissent aussi... le courage et les vertus du gouvernement mexicain, en particulier de Suarez, qui a été les puissances européennes sont rentrées en guerre contre lui parce qu'il avait refusé de payer la dette. Hein ? Il avait dit on ne paye plus la dette extérieure du Mexique, et du coup il a vu débouler d'abord une, puis les trois coalisés, y compris France et Angleterre, sur le territoire mexicain pour lui faire la guerre. Donc Marx et Engels savent parfaitement reconnaître ça. Mais ils ne critiquent jamais l'invasion coloniale, si vous me permettez de dire ça, ou coloniale sur du colonial, enfin bon, l'invasion états-unienne. Jamais, à aucun moment. Ils disent même tout le contraire. Tant mieux! Que les Mexicains soient écrasés, que les Yankees arrivent le plus vite possible sur la côte pacifique, parce que la révolution arrivera plus vite. C'est absolument clair. Alors vous imaginez, pour être marxiste en Amérique latine, il faut quand même avoir le cœur accroché, hein, parce qu'on entend ça quand on est mexicain, et les marxistes mexicains sont parmi les plus magnifiques que j'ai pu connaître personnellement. Mais il faut qu'ils avalent ça. Hein. Je ne vous raconte même pas l'effet de l'expression de dictature du prolétariat quand on s'est tapé Pinochet, quand on s'est tapé... Donc, pour être marxiste, communiste en Amérique latine, il faut vraiment avoir accepté ou dépassé un certain nombre de malentendus. Ben oui, c'est en Amérique latine que ça bouge le plus, quand même. Hein. Bon, enfin, passons. Alors... Pourquoi ils ne critiquent pas les États-Unis ? Parce qu'ils fondent vraiment l'espoir de voir les États-Unis tenir un rôle clé dans le basculement du monde, par la Révolution. Ils y croient ferme. Hein. D'ailleurs, c'est pas si aberrant que ça. Aujourd'hui, on regarde les États-Unis comme un truc absolument abject. Enfin, pardon, je parle pour des gens comme moi. Perdu... abruti, réactionnaire, enfin, alors Trump, il nous a permis de réunir même la droite avec nous dans ces champs-là, mais il faut bien réaliser ce qu'est l'histoire des États-Unis. Jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le socialisme était puissant, était réel. Je veux dire, un nombre colossal d'ouvriers... de travailleurs étaient acquis à la cause de l'Union soviétique avant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et il a fallu leur taper dessus, mais encore plus qu'à Sacco et Vanzetti. Hein. Il a fallu vraiment les marteler sans arrêt pour les mettre à genoux. Mais il n'est pas complètement fou, à l'époque de Marx et Engels, d'avoir ça en tête à propos des États-Unis. Évidemment que c'était l'espoir aussi. Avant même la Russie, bien avant la Russie. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'époque. On ne peut pas leur projeter trop de choses sur la tête à ces deux-là, et à Marx en particulier. Il faut les laisser dans leur temps. Alors, il y a tout ça, mais il y a aussi et surtout la petite musique dont j'ai parlé au début, l'invariant. Marx dit « Le colonialisme est une avancée, mais il a un coût humain gigantesque. » Je le cite. « La bourgeoisie a-t-elle jamais effectué un progrès sans traîner les individus et les peuples à travers le sang et la boue, la misère et la dégradation ?» Donc on a clairement deux visages de la civilisation bourgeoise. Il continue. « L'hypocrisie profonde et la barbarie inhérente à la civilisation bourgeoise s'étalent sous nos yeux en passant de son foyer natal, où elle assume des formes respectables, aux colonies, où elle se présente sans voile. » En modifiant un peu. « Ce n'est que lorsqu'une révolution sociale aura maîtrisé ses réalisations de l'époque bourgeoise que le progrès humain cessera de ressembler à cette hideuse idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne des victimes. » C'est clair. Mais en attendant, Marx nous dit et nous redit que les colonisés, pour le dire avec lui, sont forcés de s'engager sur le chemin de la civilisation bourgeoise, anglaise. Il fait ça sans jamais nier la civilisation propre des colonisés. Vous comprenez ? À aucun moment, il y a... Oui, évidemment, il va, quand il parle des Indiens de l'Inde, parfois, chapeau les marxistes indiens aussi, parce que pour avoir encaissé ça... Bon, la plupart sont d'accord avec ça, mais bon, quand il dit les bourgeois anglais ont débarrassé... les Indiens de ces espèces d'affreux défauts, se mettre à genoux devant un singe ou une vache, enfin, tant mieux, tout ça est balayé. Bon, mais disons, il le dit sans ménagement, quoi. Bon, c'est Marx, il cogne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir attendre très longtemps avant que la critique anticolonialiste de Marx ne devienne systématique. Et disons, ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, l'analyse de Marx du processus de colonisation va se faire en termes de destruction-régénération, typiquement sur le modèle de l'Aufhebung, du dépassement par suppression-conservation. Enfin, la figure dialectique typique de Marx que l'on trouve, que l'on voit varier à propos de tous les thèmes fondamentaux, l'État, enfin, presque tout. On a ça. Ça va durer des décennies. Quand je dis des années, ce sont des décennies. Il va continuer à analyser la colonisation pendant des décennies dans ce schéma. Destruction, régénération. L'explication de la genèse du capital qu'il va donner au livre 1 situe la colonisation, on l'a compris, au cœur de l'accumulation dite primitive ou originelle. La poussée du capital se fait par dissolution du mode de production féodal, avec concentration foncière, avec enclosure, avec séparation du producteur d'avec les moyens de production, avec libération de la main-d'œuvre, pour dire vite paysanne, mise à la disposition des industries de la révolution industrielle, disons, avec division du travail, approfondissement de la division du travail, des choses que l'on connaît. Mais il dit clairement, simultanément, cela se fait, la poussée du capital se fait par l'élargissement de la sphère de la marchandise au monde entier. C'est cette face externe de l'expansion du capital que représente la colonisation. Et cette face externe est très souvent négligée, oubliée par les marxismes occidentaux. Certains l'ont même, du début à la fin, passé à la trappe. Ça, c'est plus que grave. C'est ne lire Marx qu'avec un seul œil, ou ne le lire qu'à moitié. Non, Marx est clair tout le temps, pas une fois, il est clair tout le temps. Le processus est simultané en Europe et dans le même temps. Sinon, on n'y comprend rien. Enfin, c'est mon opinion. D'ailleurs, ça a toujours été ma surprise d'écouter des marxistes qui s'arrêtaient là. Non, dans le même mouvement, il y a l'expansion du capital au-delà des frontières de l'Europe. C'est le même mouvement. C'est l'histoire du capitalisme. Sinon, ce n'est pas l'histoire du capitalisme. C'est l'histoire du capitalisme là où il est né. C'est en un temps et en un espace précis.
On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils s'en vont, on est heureux.
Les touristes, les touristes, quand ils arrivaient chez nous autrefois, nous croyions qu'ils venaient nous voir parce qu'ils nous aimaient bien. Et nous aussi, nous les aimions bien. D'ailleurs, c'était nos bienfaiteurs. De temps en temps, ils nous donnaient un peu d'argent, car ils étaient très généreux avec nous. Mais qu'est-ce que nous avons pu rire avec eux? Je vais vous raconter ça tout à l'heure, surtout si vous acceptez de chanter avec moi notre gai refrain. Allons-y.
On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils s'en vont, on est heureux.
C'était leur façon très drôle de nous donner de l'argent qui nous faisait rire. Ils prenaient deux ou trois pièces de monnaie. Et au lieu de nous mettre ça dans la main comme nous autres nous faisons lorsque nous offrons quelque chose, ils lançaient les pièces en l'air. Et pas dans notre direction, hein. Alors il fallait voir cette course au trésor. Petits et grands, enfants et adultes, nous nous précipitions joyeusement sur les pièces d'argent. Nos bienfaiteurs étaient joyeux, eux aussi. Ils riaient aux éclats. Et il y en avait même certains parmi eux qui étaient si heureux de nous voir heureux qu'ils prenaient des photos de la scène.
Ah, c'était magnifique, hein.
On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils s'en vont, on est heureux.
J'étais gamin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils m'impressionnaient, les touristes? Ils étaient bien vêtus et ils se ressemblaient tous, car ils avaient la même façon d'arriver chez nous sans nous prévenir et aussi de quitter notre village sans jamais nous dire merci, ni même au revoir. Dans le fond, ils étaient bizarres quand même, hein. Mais surtout, ils étaient riches. Et dans mon tout petit fort intérieur, je me disais, quand je serai grand, je serai un touriste de profession. C'est là un bon métier, car lorsqu'on est touriste, on est riche et on voyage et on donne de l'argent aux autres.
On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont bons, on est heureux.
Et je me disais encore dans mon tout petit fort intérieur, quand je serai touriste et riche, je vais voyager dans le monde entier et semer le bonheur en jetant de l'argent en l'air pour les autres gens. Vive le tourisme international.
On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont bons, on est heureux.
Ah oui, très heureux même, hein.
Donc on a l'expansion du capital qui va déborder, disons, sur des sociétés précapitalistes, on les appelle comme on veut, ou coloniales, ou disons, pour reprendre des termes typiques de Marx, on va dire précapitalistes, qui sont initialement localisées en dehors du champ d'action du capital. Et l'englobement de ces sociétés précapitalistes à l'univers de la marchandise va s'effectuer par une dynamique qu'il dit de destruction création ou de destruction régénération. Vous voyez l'importance du truc, parce que par exemple on enseigne, enfin je vous dis un truc qui a rien à voir, mais quand même, hein, la manière dont on nous pille, dont on nous pille et on nous ment dans les enseignements à l'université. Un type comme Schumpeter, qui est très respectable, Joseph Schumpeter, est très souvent associé au processus d'innovation par destruction-création. Mais si vous lisez Schumpeter, il dit, mais c'est pas moi, hein, c'est Marx. Et il le dit d'une manière prodigieusement intelligente et honnête. C'est Marx, quand il parle de la colonisation, il dit que le processus détruit, puis recrée. Vous voyez ? Et on nous bassine avec Schumpeter qui a inventé le machin et tout. Pas du tout. C'est même pas lui qui a menti. C'est... Bon, enfin, passons. Vous voyez comme c'est... Il faut vraiment, vraiment lire, quoi. Je dis ça aux plus jeunes. C'est très important d'aller voir, d'aller vérifier ce qu'a dit vraiment Marx. Mais même quand un type, ou on dit qu'un type a parlé de Marx, il faut aller voir ce que ce type a vraiment dit, ou cette nana. Donc, destruction, ici, veut dire substitution de structures ou de relations, disons, nouvelles à des formes anciennes en décomposition, en désagrégation. Alors, ce processus est illustré à merveille, disons, dans un très célèbre article de 1853 qui s'appelle « Les résultats éventuels de la domination britannique en Inde », qu'il publie dans le New York Daily Tribune, dans la New York Daily Tribune, je pense que c'est mieux de dire comme ça, okay, où il montre que l'Angleterre a, en Inde, une double mission. Un, annihilation de la vieille société. Alors là, il s'en donne à cœur joie. Hein. C'est là qu'il dit qu'il force le trait. Les singes, les vaches, les machins, les trucs. Et, deuxième temps, pose des fondements de la société moderne. Donc le premier temps, c'est celui de l'intrusion coloniale qui va fracasser l'entité socio-économique du pays, de la société colonisée. Okay ? Les capitalistes, juste après la conquête militaire, ça commence par la conquête militaire, juste après, les capitalistes vont chercher à remplacer des relations marchandes, des relations commerciales, par un contrôle direct des productions locales. Okay ? Et la condition de la production capitaliste, de la production locale capitaliste, on lit le livre 1, c'est, je cite, « une propriété du sol arrachée d'entre les mains de la masse ». Donc, dans un premier temps, il faut transformer le régime foncier, il faut libérer la terre, entre guillemets, okay, il faut individualiser la propriété de la terre. Et ensuite, dans un deuxième temps, le commerce revient, une fois que, par la propriété de la terre et du reste, mais ce sont des sociétés essentiellement agricoles, ce sont des sociétés agricoles ou artisanales, donc contrôler la terre, c'est contrôler la société. Une fois que le contrôle de la production est direct, alors le commerce revient et la loi de la valeur écrase ce qui reste des décombres de la société colonisée. Donc, le commerce achève de détruire la société colonisée parce que, sur le marché colonial, le capital du centre a des armes redoutables, en particulier les bas prix des produits de fabrique. Okay ? Donc, on a... C'est l'échange inégal, c'est ce qu'on a appelé bien un siècle plus tard l'échange inégal. Okay ? La métropole et la colonie sont dans une relation d'échange déséquilibrée, profondément déséquilibrée, inégale, entre guillemets, okay, en raison de différences de structures productives qui sont elles-mêmes le résultat de différences de productivité du travail. Okay. On produit plus de valeur pour un même temps de travail au centre qu'à la périphérie. J'utilise centre et périphérie qui ne sont pas chez Marx, hein, mais enfin, je pense que vous comprenez parfaitement le raccourci. Et le transfert de valeur peut passer par là. Okay ? La clé de ça, c'est que les capitalistes européens peuvent vendre leurs marchandises au-dessus de la valeur qui est déterminée chez eux. Okay ? Donc, on a une concurrence déloyale, d'une certaine manière. Et c'est précisément cette concurrence déloyale qui va achever de déstructurer l'économie coloniale moins productive. Okay ? Et là, le mode de production précapitaliste, pour aller vite, qui est fondée sur l'articulation, l'imbrication entre agriculture et artisanat, s'effondre. Et c'est précisément sur ce, comme dit Marx, à travers un monceau de ruines, que la régénération peut surgir. Alors là, certains souriront, d'autres enrageront, mais on voit Marx nous dresser un tableau assez surprenant. Là, il dit clairement qu'il force le trait, mais je pense qu'il y croit, hein. Des avantages innombrables apportés par la colonisation à la société colonisée. L'unité politique du pays, c'était le bordel avant les Anglais, et puis ça a été bien rangé après eux en Inde. Et l'éducation, il ne faut pas le prendre pour un bonnet, hein, il sait très bien de quoi il parle. Il dit que tout ça se fait à coup de sabre et de fusil, hein, okay, et de massacre. Même quand il parle d'éducation, il dit les Anglais traînent les pieds, ils le font vraiment de mauvaise grâce. Mais le fait est qu'il crée une intelligentsia locale qui est d'ailleurs encore plus fervente, supportrice de la civilisation, de la culture, il part de l'Inde, hein, de la culture britannique que les Anglais eux-mêmes. Hein, donc, bien joué pour le coup. Les chemins de fer, les moyens de transport, les ports, les industries, tout ça, l'introduction d'éléments de propriété privée dans les zones rurales permet de libérer des paysans pour les industries naissantes en ville, donc quelque chose qui ressemble un peu quand même à ce qu'on a connu sur le continent européen. Tant mieux, dit Marx, tant mieux parce que la révolution arrivera plus vite. Encore et toujours. Hein. Je le redis, cette violence, pour lui, est incontournable, inévitable, parce que l'expansion du capital est inévitable. De toute façon, on devra passer par cette souffrance. Mais plus vite arrivera le développement, entre guillemets, industriel, plus vite arrivera la révolution. C'est ça qu'il a dans la tête. Donc, je ne vous dis pas que c'est pour abréger les souffrances endurées par les sociétés colonisées, mais je pense que c'est quand même un peu ça. Dans sa manière d'écrire. OK ? En Inde, l'Angleterre dévaste, son armée pille, son industrie détruit, son capital extorque des surprofits, mais ce même capital, anglais principalement, britannique plus généralement, investit, construit, réorganise la structure productive. OK ? À tel point, dit Marx, que les conditions de l'éviction de ce même capital anglais sont en train d'être réunies, sont en train d'être créées, disons, dans la colonie, tant le développement du capital local est prévu, anticipé, disons, est fort. OK ? Alors, sur ces prévisions d'avenir, il faut bien reconnaître que Marx s'est trompé. Ou, en tout cas, disons, qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences des enchaînements qu'il avait lui-même découverts. Parce que, par exemple, mais on trouve aussi d'autres passages, dans les Grundrisse, 1857, c'est pas bien loin de 1853, donc il est toujours dans la même réflexion, disons. Marx dit que le développement de la production marchande simple, le développement de la production marchande simple, ne conduit pas nécessairement au développement de la production marchande capitaliste. Il dit même, cela peut conduire à toute autre chose. Donc, évidemment que c'est un passage furtif des Grundrisse, mais Marx dit, lorsqu'on a développement de la production marchande simple, on n'a pas mécaniquement développement de la production marchande capitaliste. On peut avoir tout autre chose, c'est-à-dire tout autre chose que le capitalisme. Il faut savoir le lire, disons, dans la continuité de sa phrase. Alors, on se souvient que le livre 1 du Capital se terminait par un ensemble de pages très curieux. Vous les avez peut-être en tête pour certains, sur une description, disons une analyse très très descriptive de la colonisation de peuplement, des thèses de Wakefield, vous voyez, tous ces textes-là. Bon, mon hypothèse, ça a toujours été qu'il a terminé là-dessus pour passer au travers de la censure, quoi. Hein ? Le censeur, très dur, lisant les premières pages, il y panne rien, c'est sur la marchandise et tout, bon, abstraction totale du début du Capital, on grimpe vers les sommets, et puis les dernières pages, il nous parle en gros des kangourous d'Australie et tout ça, bon, ok, manuel inoffensif, ça passe. Peut-être qu'il y a une autre explication, hein. Peut-être qu'il avait autre chose en tête en collant les colonies de peuplement tout à la fin du Capital, mais j'ai jamais compris pourquoi c'était là. Bon, mais surtout, le livre 2 n'a rien à voir avec les colonies. Le livre 2 commence dans l'abstrait total, à nouveau, c'est-à-dire par une description, alors là, pour le coup, in abstracto, du mode de production capitaliste. Et là, on est parti pour une bonne tapée de pages sur le livre 2. Bon. Donc, il y a un problème avec les colonies, c'est évident. Mais, en plus, dans le plan, le fameux plan dit de 1857, Marx va annoncer un travail à venir sur les colonies, sur le marché mondial, enfin quelque chose d'enchaîné, d'emboîté. Et comme vous le savez, il n'a jamais pu achever l'écriture de ces textes, donc on ne sait pas comment il les aurait rédigés. Bon, en tout cas, ce que nous dit Marx, très clairement, c'est que, en tant qu'essor du règne de la marchandise, la colonisation constitue une étape de l'unification du monde. Voilà, on y est. Unification du monde qui est inhérente à la reproduction du capital et qui va soumettre toutes les autres sociétés précapitalistes à sa logique, ok ? Selon une dialectique d'ailleurs très économique, complexe, entre la grande industrie et le marché mondial. Très complexe et d'ailleurs, de façon assez surprenante, assez peu étudiée par les marxistes. Cette dialectique entre grande industrie et marché mondial, elle est vraiment très complexe, avec des concepts que Marx esquisse quasiment à la manière de Galois avant un duel, quoi. Enfin, avant de mourir, quoi. Comme s'il synthétisait en une ligne 15 pages d'équations mathématiques. Enfin, là, ce n'est pas des équations mathématiques, mais il est extrêmement concis et abstrait. Des avantages pour tout le monde, des avantages évidents pour la puissance colonisatrice, okay, le pays colonisateur qui tire de la colonisation des profits extra, c'est-à-dire en fait rien moins qu'une contre-tendance à la baisse tendancielle du taux de profit, donc c'est pas rien, hein. C'est-à-dire en fait une possibilité de retarder encore un peu plus la survenue de crise de surproduction. Hein. Donc pour le pays colonisateur, ce sont des avantages multiples, je les énonce pas tous, mais disons, pour aller à l'essentiel, c'est vraiment une contre-tendance majeure à la baisse tendancielle du taux de profit. Mais, encore une fois, et quoi qu'il en coûte, c'est aussi un projet, un progrès pour la colonie, d'accord ? Pour le pays colonisé. Et ce progrès, il existe, il existera, même si, quelle que soit la nature de la colonie, Engels clairement différencie les colonies selon différents critères. Quels que soient ces critères, les colonies, même réceptacle des migrants, même pourvoyeurs de matières premières, s'en sortiront avec profit, si je puis dire. Donc, au fond, Marx ne doute pas que la périphérie va s'industrialiser. Il voit les obstacles, jusque dans le monopole colonial lui-même, qui est une entrave au libre-échange. Donc, ça ne devrait pas, normalement, favoriser le développement capitaliste, mais jusque par-delà le monopole commercial, par-delà aussi l'absence de propriété privée de la terre. Je ne sais pas si vous imaginez l'exploit intellectuel que c'était d'identifier ça comme un obstacle à la pénétration du capital, à l'essor du capital, à l'époque. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait banal maintenant, évident. Mais il est Marx est l'un des premiers penseurs à avoir compris l'importance de la propriété privée de la terre pour l'essor du capital.
Radio Campus.
Mon père est chez un sale chien. Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique.
C'est possible, mais à poil, t'es un connard comme les autres.
106,6.
Mais par-delà tout ça, Marx pense que rien n'arrêtera le capital. Absolument aucune force. Ok ? L'industrialisation finira par arriver. Il ne voit pas que l'expansion du capital du centre va interdire une généralisation homogène du développement capitaliste dans le monde. Ça se comprend. Ce n'est que bien plus tard que les monopoles vont bloquer les monopoles de la finance impérialiste, pour aller vite. États-Uniennes d'abord, mais pas seulement, des impérialistes, ces monopoles vont bloquer le développement au Sud. Alors, on a même des textes exagérés, mais intéressants. Par exemple, en 1850, Marx écrit sur la Chine, et il nous dit que le développement capitaliste en Chine va être tellement rapide que très bientôt, les visiteurs qui s'y rendront verront écrit sur la Grande Muraille « République chinoise ». Liberté, égalité, fraternité. 1850, la révolution, victoire de la révolution chinoise, Mao président, c'est pile poil un siècle après, enfin, en 49. Quand même chapeau, non? Je suis en train de vous dire quelque chose, on n'est pas Madame Irma qui regarde dans le machin et tout, mais ça suffirait, cette phrase suffirait à ranger Marx définitivement dans le camp des antiracistes, humanistes, radicaux. Ça suffirait. Au sens où Marx, c'est pas sur la Chine seulement qu'il dit ça. Il dit, et Engels avec lui, qu'il y aura des révolutions en Inde, qu'il y aura des révolutions en Égypte, qu'il y aura des révolutions en Algérie. Il le dit clairement, même en Algérie, qui est peut-être le pays où il est le plus myope sur l'émergence des mouvements nationalistes. Disons pourtant, il a bien compris, même jusqu'à la troisième vague de colonisation et les résistances d'Abdelkader, c'était évident, ça se voyait à l'œil nu, qu'il y avait de la libération nationale dans Abdelkader. C'était évident. Mais à propos de l'Algérie, il est un peu relâché. Je vais y revenir un instant. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une portée universalisante des espoirs révolutionnaires de Marx extra-européens. Et ça suffit, je crois, à soi seul, à le ranger dans le camp des anticolonialistes radicaux. Le fait de tolérer la possibilité d'une révolution, avec tout ce que ça veut dire pour Marx. Mais ça n'enlève rien au fait que chez lui, les luttes des peuples colonisés ne sont vues que comme complément, à cette époque, que comme complément de la tâche historique qui incombe au prolétariat européen et, au premier rang, au prolétariat anglais. En clair, il dit et redit, même quand il se lâche un peu sur les mouvements nationalistes, il rappelle autour de 1850, il revient à sa thèse fondamentale, les révolutions arriveront dans les pays les plus avancés. On ne peut envisager le communisme qu'à partir du niveau de développement capitaliste industriel le plus élevé atteint. Et à l'époque, c'est l'Angleterre. Encore une fois, il ne minore pas la gravité de la colonisation. Okay ? Il dit même clairement que le sort des peuples colonisés est pire que celui des travailleurs européens. Mais, donc il n'a pas moins de compassion ou moins d'attention pour les uns que pour les autres. Il pense juste que l'expansion du capital est inévitable. Elle est terriblement douloureuse, mais inévitable. Et elle va entraîner dans un même mouvement tous les peuples. Okay ? Elle va finir par rassembler les conditions de leur émancipation à tous. La révolution mondiale, le communisme mondial, c'est ça qu'il a dans la tête. Alors, ajoutez à ceci, Marx, et autant que lui, d'ailleurs, Engels, vont radicaliser leur dénonciation anticoloniale à partir d'une prise de conscience fondamentale qui arrive dans ces années, 1850, qu'il faut immuniser les travailleurs européens, et d'abord les travailleurs anglais, contre le poison du racisme, okay, qui est un poison distillé par leur bourgeoisie. Engels écrit, en 1856, à Marx d'ailleurs, « On se rend compte que la prétendue liberté des citoyens anglais a pour fondement l'oppression des colonies. » Donc, il ne pouvait pas voir les déterminants de ce qui allait, les deux, les déterminants de ce qui allait devenir l'impérialisme, et on ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir vu. Le temps n'était pas celui-là. Mais par contre, ils ont parfaitement vu que le processus de colonisation des sociétés précapitalistes se fait au bénéfice des sociétés colonisatrices dans leur ensemble, prolétariat compris. Évidemment, l'embourgeoisement des ouvriers du Nord est le danger numéro un pour eux. Pas étonnant qu'on n'ait pas beaucoup travaillé dans les sphères communistes, socialistes, anarchistes, progressistes, peu importe comment on les appelle, je m'en fous, ces questions-là. Parce qu'il y a ça derrière. Et ça, c'est pas rien. C'est la question de l'embourgeoisement du prolétariat au Nord. C'est la question, pour le dire à la hussarde, la question de la répartition de la rente impérialiste, comme on dirait maintenant. Ça, c'est le tabou pour nous tous. Jusqu'à quand ? Marx est tout à fait clair. Il parle d'une multiplicité des voies de passage au socialisme. Il parle d'une histoire qui peut opérer, si vous me permettez, par bond en avant, comme dirait l'autre. Finalement, c'est à peu près ce qu'il avait déjà dit quelques années plus tard, en 1877, à Mikhaïlovski, lorsque, sur des thèmes un peu différents, mais finalement très proches, très similaires, Les Annales de la Patrie, une revue russe, lui avait demandé est-ce qu'on va réussir à passer au socialisme sans se taper 3 siècles de capitalisme. Il avait répondu à peu près la même chose, mais en beaucoup plus difficile à lire, disons, et ramassé. Donc, l'aboutissement des réflexions de Marx est tout à fait important. Marx est en train de parler d'une histoire non linéaire qui est entrouverte, d'une histoire non déterministe. Il est en train de dire que l'essor du capitalisme européen n'est pas applicable au hors d'Europe, n'est pas une explication universalisante, disons. Ça, c'est tout à fait énorme, quand même. On ne peut pas plaquer ce qui est dit dans le capital, ou ce qui s'est passé en Europe à partir du XVe siècle, à des sociétés autres. On aperçoit, tout à la fin, une dernière inflexion, selon moi, dans des recherches peu avant sa mort que Marx va entreprendre tous azimuts à propos des différences de formation sociale, disons, des différences de dynamique des formations sociales. Et dans ces derniers textes, qui sont peu connus et encore moins étudiés, on va voir un Marx qui va vraiment s'éloigner d'une vision mécaniste de l'histoire. Je veux dire par là que quand il a commencé à écrire sur la colonisation dans les années 1840, la modernisation, la civilisation, vous vous souvenez ? Sa conception de l'histoire était finalement celle qui dominait à l'époque, enfin, qui dominait chez les Hegeliens, de gauche ou pas. C'était une évolution de l'histoire humaine qui partait de l'Orient, qui passait par l'enfance, qui passait par une adolescence de l'antiquité gréco-romaine, disons, pour ensuite arriver à la maturité, à l'âge adulte, en Occident. C'est ça qu'il avait, grosso modo, en tête. Et c'est précisément de cette vision, c'est de cette vision très hégélienne qu'il va progressivement s'écarter. Il va étudier de manière assez désordonnée, les anthropologues et tout diront il ne l'a pas fait de manière approfondie et tout, mais c'était l'anthropologie naissait à l'époque, on ne peut pas encore lui demander d'inventer l'anthropologie et la sociologie et tout ça. Il travaillait avec les derniers travaux scientifiques de l'époque qu'il allait chercher dans 10 langues différentes et sur plusieurs continents, donc c'était déjà pas mal. Il va étudier ça, il va comparer les communautés rurales de ces sociétés précapitalistes, il va finalement, pour aller vite, les ramener à une forme de propriété collective primitive, et il va en conclure qu'il existe des formes dérivées ou des formes intermédiaires de cette forme primitive de propriété collective de la Terre, évidemment, au XIXe siècle, comme par exemple l'Aptchina russe. Alors, là-dessus, on va le voir explorer des combinaisons d'hypothèses parfois très complexes, arborescentes, sur les formations primitives et aussi sur les formations sociales précapitalistes, où il y aura bien sûr toujours les rapports de production, mais où ces rapports de production vont venir s'imbriquer dans des autres rapports, des rapports de parenté, par exemple dans les textes sur l'Algérie, vraiment quelques mois, semaines presque avant sa mort. Il écrit sur l'Algérie, il étudie l'Algérie, sur la structure de propriété de la terre, mais aussi la structure de la famille ou des rapports de communauté locale, quand il écrit sur la commune rurale primitive germanique et tout ça, son évolution, mais aussi sur les Indiens d'Amérique, par exemple, et tout. On a tout ce travail d'exploration assez extraordinaire où on va voir Marx différencier, épaissir les rapports de propriété, les rapports d'exploitation, les rapports de domination. Et c'est sur ce dégradé très large, cette gamme de possibles qui est désormais ouverte, que des formes différenciées de reproduction sociale, on dirait ça au sens le plus large, c'est sur cette gamme-là que va s'imposer la colonisation, donc qui va dévier la trajectoire de la société précapitaliste. Évidemment que c'est compliqué, cette histoire-là, parce que, pas seulement dans une petite phrase des Grundrisse qu'il faut aller vraiment chercher pour la trouver, là, c'est tout à fait clair. Il dit, par exemple, que la société colonisée, je le cite, peut être quelque chose de nouveau. C'est plus l'industrialisation, assurée, mécanique et tout. On a autre chose, complètement. On a la modernité. Marx ou la modernité, là. Même si c'est tout griffonné et difficile à lire. La société colonisée, peut-être quelque chose de nouveau, un peu plus loin, une synthèse des modes de production du peuple conquérant et du peuple conquis, un peu plus loin, le produit de leur action réciproque. C'est fort quand même. C'est difficile à interpréter, bien sûr, tout ça, parce qu'on a toujours la lutte des classes, on a toujours le maillage force productive, rapport de production, mais tout devient relatif, tout devient comparatif. Tout devient combinaison, tout devient polyvalent, tout devient en fait ouvert. Donc, je dis que la colonisation doit, les réflexions sur la colonisation doivent être aussi placées au cœur de ces ultimes recherches de Marx, qui sont des mutations et qui sont très souvent négligées ou même méconnues. L'analyse des sociétés colonisées devient hybridation de formes de reproduction sociale, et là, selon moi, on voit Marx se dégager définitivement de l'économisme, du déterminisme, dans lequel des légions de marxistes ont voulu enfermer le marxisme après lui.
s'était endormi. Un vautour a plané dans la nuit. Et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol. Il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein. Le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Le lendemain, toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres, autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein. Le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Cherche encore ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs autour du feu de bois, le son des tam-tams s'élève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Le ciel d'Afrique était si serein. Le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus.